Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Elle était née à Grand Rapids dans le Minnesota et s'appelait Frances Gum. Mais c'est sous le nom de Judy Garland qu'elle devint une star, en un temps où le mot n'avait pas encore été galvaudé. Sous contrat avec la MGM au sortir de la petite enfance, elle n'attendit pas longtemps pour être propulsée au firmament des étoiles avec le magicien d'Oz. De ce moment, elle enchaîna film sur film, comédies musicales à succès aux côtés de Mickey Rooney, Gene Kelly ou Fred Astaire. La cadence infernale des tournages et leur exigence ne tardèrent pas à la fragiliser et à la rendre dépendante aux médicaments. La suite de son existence fut une série de chutes et de résurrections, jusqu'à sa tragique issue en 1969. De Judy Garland, il nous reste les films, le plaisir toujours intact de la retrouver dansant et chantant, avec ce sourire qui lui plissait délicieusement le coin du nez, et les enregistrements sur disque de sa voix sublime, comme celui de son mythique concert au Carnegie Hall en 61. Premier épisode de la vie de Judy Garland, A Star Is Born, par Jean-Louis Cavalier, pour Miroir en 1985.
La grosse limousine quitta en trombe le motel de San Fernando Valley et prit la route de Los Angeles. Il devait être 4 heures du matin maintenant. C'est Charlie qui conduisait. John, machinalement, alluma la radio.
Stormy.
C'était elle, c'était sa voix.
Since my man and I ain't together, keeps raining all the time. Life is bad. Just can't get my poor self together. I'm weary all the time, the time. So weary.
Cette fois aujourd'hui, sais-tu à jamais. Judy Garland a été retrouvée morte à Londres ce dimanche 22 juin 1969 et pour le moment nous n'avons pas d'autre...
Maintenant c'était vrai. Eux savaient déjà. Dans la nuit, ils avaient voulu faire une blague à Judy et Mick Eddins. Ils avaient téléphoné à Londres. Il était là-bas 10 heures du matin. C'est Mickey à moitié endormi qui avait répondu. Laisse ton numéro, elle te rappellera plus tard. Il raccrocha et se précipita vers la salle de bain. Elle était assise, les bras sur la poitrine. Elle était morte. Mickey rappela Charlie et John à Los Angeles. À l'autre bout du fil, les deux hommes, à moitié ivres, faisaient les pitres. Mickey hurla. Prévenez Luft, ses enfants, Lorna et Joey, qu'ils n'apprennent pas la nouvelle par les journaux. Maintenant, les stations de radio avaient interrompu leur programme habituel et passé des disques de Judy Garland ou raconté des épisodes de sa vie.
Lorna, effondrée, essaya de joindre Liza par téléphone. Elle passait le week-end chez des amis près de New York. Il devait être 8 heures du matin. Liza prit immédiatement la route. Le trajet lui parut interminable. Elle mit la radio pour avoir des nouvelles.
With my high starch collar and my high top shoes and my hair piled high upon my head, I went to lose a jolly hour on the trolley and lost my heart instead. With this light brown derby and this bright green tie, he was quite the handsomest of men. I started to yen, so I counted to ten, then I counted to ten again. Clang went the trolley, ding, ding, ding went the bell. Zing, zing, zing went my heart strings, from the moment I saw him I fell. Chug, chug, chug went the motor, bump, bump, bump went the brake. Thump, thump, thump went my heart strings, when he smiled I could feel the car shake. He tipped his hat and took a seat. He said he hoped he hadn't stepped upon my feet. He asked my name, I held my breath. I couldn't speak because he scared me half to death.
Hi, Johnny.
Chug, chug, chug went the motor. Pop, pop, pop went the wheels. Stop, stop, stop went my heartstrings. As he started to go, then I started to know how it feels.
The day was bright, the air was sweet. The smell of honeysuckle charmed you off your feet. You tried to sing, but couldn't squeak.
In fact, you loved him so you couldn't even speak.
To leave, I took hold of his sleeve with my hand, and as if it were planned, he stayed on with me, and it was grand just to stand with his hand holding mine to the end of the line.
Elle écouta jusqu'au bout. Arrivée à New York, Liza régla tout, appelant à Londres, à Los Angeles, la famille, les amis. Il n'était pas question que la cérémonie se déroule à Londres. Londres n'avait été qu'une simple étape dans la carrière de Judy. Liza choisit New York. Le corps de Judy voyagea dans le même avion que Mickey Roney, qui se trouvait à Londres lui aussi. Un clin d'œil du hasard ou du cinéma. On avait aménagé le hall d'entrée de Campbell's, au coin de la 81e et de Madison Avenue. Pas de noir, du jaune partout, des fleurs jaunes qui éclataient. Pendant tout un jour et toute une nuit, une foule silencieuse défila. Au milieu de la pièce, dans une châsse aux coussins de velours bleu pâle, Judy reposait. Les paupières closes, un léger sourire aux lèvres. Liza avait demandé à Charles Schramm, lui qui l'avait maquillée il y a si longtemps pour le magicien d'Oz, de s'occuper d'elle cette dernière fois. Et ça aussi, on ne savait pas si c'était du cinéma. Cette foule qui se pressait, ou le public qui l'attendait et que l'orchestre faisait patienter avec un pot pourri de ses succès. Liza avait tout organisé. Mickey René était trop effondré pour prononcer l'éloge funèbre. Elle avait pensé à James Mason. Judy le connaissait peu. Elle l'avait connu lors du tournage de A Star Is Born. Elle aimait sa voix.
You're a great singer.
Me?
Hasn't anyone ever told you that before?
No, Mr. May, no one's ever told me that before. Maybe you're not quite as sober as we both thought you were, but thank you.
I'm as sober as a judge and I know exactly what I'm saying. You've got that little something extra that Ellen Terry talked about. Ellen Terry, great actress.
Et pour la cérémonie, Liza voulait de la musique et des chants. Et là non plus, on ne savait pas si c'était la foule qui chantait des cantiques ou le public en chœur qui répondait à Judy.
Dans la foule, près du cercueil, un vieux monsieur était assis, les yeux fermés.
Crabwin, disait Mrs. Gum, mais allez vous coucher, vous avez du travail demain. Tout votre stock de western à placer, c'est pas Franck et moi qui allons tout vous acheter.
En fait, ce n'était pas son métier. Mark Crabwin était étudiant en médecine. L'été, il essayait de placer un vieux stock de films muets auprès des directeurs de salles des petites villes du Minnesota. Frank Gehm dirigeait l'unique cinéma de la ville, le Newground, et sa femme, Ethel, dans la salle, assise au piano, les yeux fixés sur l'écran, accompagnait les espions, les crimes, les duos d'amour. Le vendredi, là, c'était un grand jour. Mary Jane et Virginia, les filles Gehm, s'habillaient, se préparaient pour le spectacle. À l'entracte, elles montaient sur scène et présentaient un petit spectacle de chant et de danse inspiré par le numéro des Sœurs Duncan. Ethel s'était mise en tête de faire faire une carrière à ses deux petites filles. C'est comme ça que Mark Rabouin avait connu Frank et Ethel à Grand Rapids en 1920. L'été était passé. Mark avait repris ses cours à l'université du Minnesota. Et un soir de novembre 1921, Frank Gehm frappe à sa porte. Mark, vous êtes médecin. Ethel est enceinte. Nous ne pouvons pas garder l'enfant. C'est très grave ce que vous me demandez là, Frank. Les deux hommes parlèrent tard dans la nuit. Le matin, Frank reprenait le train pour Grand Rapids. Mark l'avait convaincu. Ethel aurait son enfant. Bien sûr, on se mit à attendre un garçon. Et ce fut une fille qui naquit le 10 juin 1922. On l'appela France Gehm. Mais très vite, tout le monde l'appela Baby Gehm.
C'était le premier épisode de La vie de Judy Garland, A Star is Born, par Jean-Louis Cavalier, pour Miroir, diffusé pour la première fois le 4 février 1985. À suivre. Vous pouvez réécouter cette émission durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Thank you.
Thank you.